Et si tout le monde était bien logé? Parce qu'avoir un toit est essentiel. Une émission en partenariat avec Alila, présentée par Stéphane Moquet.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Immo pour l'émission « Et si tout le monde était bien logé ?» avec ce mois-ci un thème pour cette émission mensuelle et philanthropique lié à la mixité sociale. Alors on en parle beaucoup, c'est au cœur des débats, mais la mixité sociale c'est quoi? J'ai été chercher la définition sur Wikipédia, que je vais faire partager à mes invités que je vous présenterai dans un instant. La mixité sociale consiste en une zone géographique donnée à permettre à des personnes issus de milieux sociaux différents, de se côtoyer et de cohabiter. La mixité sociale engendre des quartiers hétérogènes, peuplés d'habitants distincts par leurs revenus ou leurs origines, et le brassage social est facilité par les législations, mais aussi par les acteurs sociaux, comme les politiques ou les associations. Les acteurs économiques, et notamment les entreprises, jouent aussi un rôle en termes de mixité par leur politique de recrutement et de manœuvre. Voilà pour la définition de Wikipédia. On verra si nos invités la partagent complètement. En tout cas, c'est un sujet important au cœur du débat de cette émission. Et j'ai le plaisir de recevoir, on va démarrer par honneur aux dames, Magali Chelpi. Vous êtes conseillère municipale à la ville de Cannes et vous êtes également présidente de l'office HLM. Bonjour.
Bonjour.
Il y a Philippe Rémignon, président de Villogia, fondateur du groupe.
Ah non, c'est un groupe qui est plus que centenaire, mais président du directoire, c'est déjà un grand honneur.
C'est déjà un honneur et une mission au quotidien. Et nous avons Michael Lalande, vous êtes également le président d'une société et vous êtes également le fondateur de la French PropTech et c'est à ce titre-là que vous êtes présent aujourd'hui.
Exactement, donc la société Idealis est cofondateur de la French PropTech.
Eh bien, merci à tous. Alors, la mixité sociale, c'est un vrai sujet. Moi, je vais commencer par vous poser cette question. Pourquoi aujourd'hui ce sujet vous semble être au cœur de l'actualité, aussi prégnant qu'on en parle maintenant, évidemment, même dans le débat présidentiel? Peut-être Philippe, pour démarrer.
Alors, c'est vrai que le rôle d'un organisme HLM, d'un bailleur social, précisément, c'est d'installer, d'entretenir, de maintenir ou même de rétablir la mixité sociale. Effectivement, c'est bien d'avoir une définition dans Wikipédia parce que nous, c'est une forme d'injonction que nous impose la loi, etc. Mais il n'y a pas vraiment de définition précise. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons sur des équilibres de peuplement au fur et à mesure des attributions dans des programmes de logement locatif neufs. Quand on dit équilibre de peuplement, c'est qu'il n'y ait pas trop d'un groupe un peu majoritaire, trop de vieux, trop de jeunes, trop de familles, trop de monoparentales, trop. Voilà, c'est le problème dans la mixité sociale, c'est quand il n'y en a pas et qu'il y a un groupe qui finalement finit par petit à petit exclure les autres, non pas de manière volontaire, mais simplement par la logique d'attractivité. Parce que le logement social donc est déjà fléché vers des familles dont le revenu est encadré et donc limité. Donc déjà, la mixité sociale, c'est pas les riches, entre guillemets, d'une certaine façon. En tout cas, pas dans le rôle du bailleur social, ce qu'évidemment on essaye d'organiser autrement. Mais c'est aussi, on connaît la problématique en France, des quartiers de la politique de la ville.
Alors, si on regarde, voilà. Parce qu'effectivement, dans les années 50, on logeait les ouvriers. Donc, il y avait un vrai besoin. Il y avait même une amélioration des conditions de logement à l'époque. Vous aviez la salle de bain. Bon. Et dans les années 80, c'est devenu un problème. Qu'est-ce qui explique ce chemin en 30 ans qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de changer le modèle et que ça devient une nécessité de créer de la mixité?
Bonne question. En fait, c'est une question qu'on se pose tout le temps, puisque précisément les deux vagues de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, ont cherché à redonner de l'attractivité dans ces anciennes ZUP, ces anciens quartiers massifs, qui certes avaient, comme vous l'avez dit, constitué un énorme progrès par rapport à l'habitat insalubre, mais qui devenait obsolète, qui ne correspondait plus à quelque chose d'attractif. Donc, qui petit à petit, c'est s'est retrouvé relégué, ghettoisé. Donc l'ANRU, qui est quand même un programme majeur de politique publique, hein, c'est plusieurs dizaines de milliards à chaque fois, cherche à résoudre un problème qu'il ne faut pas reproduire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est sans doute que ce qui, dans les années 50, était effectivement novateur, ces grandes barres, ces grandes tours, avec effectivement le chauffage central, des salles de bain, etc., s'est retrouvé petit à petit, progressivement, un peu moins tendance, un peu... Du coup, ce sont des familles qui ont eu de moins en moins de choix, qui finalement se sont concentrés à l'intérieur. Tous ceux qui pouvaient en sortir sont partis soit à l'accession sociale, soit carrément dans le privé, et sont sortis des ZUP parce qu'elles commençaient à avoir un caractère, répulsif.
Et ça recrée de la fracture. Vous partagez l'analyse de Philippe Rémignon, Magali Chelpi ?
Alors, au niveau des... Il y a plusieurs choses d'abord. Par rapport à votre définition, puisque vous avez entamé là-dessus, moi je pense qu'il y a le logement social, entre guillemets, il y a un fort imaginaire hein, associé, dès qu'on dit social, mixité sociale, logement social.
Il y a quand même un imaginaire péjoratif derrière.
Plutôt péjoratif. Et on oublie en fait que... moi je pense qu'il y a un besoin vraiment de changement d'image au niveau de mixité sociale, logement social. On oublie que 70 à 80% des gens sont éligibles au logement social. On oublie que si vous regardez les plafonds de revenus, en gros, ça va pour une famille de 4 personnes hein, de 20 000 euros à 50 000 euros. Donc vous voyez bien la large gamme que ça compose. On oublie que c'est des actifs, c'est des fonctionnaires aussi, c'est des profs, c'est des gens qui bossent dans les supermarchés, les infirmières, etc. Donc on oublie que c'est toutes ces professions de proximité, et puis aussi des gens qui ont des cassures de vie, etc., mais qui sont aussi, autonomes. Parce que c'est ça, et je crois qu'il y a une confusion entre logement social et logement hébergement non autonome, qui relève là d'un accompagnement, etc., social. Après, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Philippe sur le parcours résidentiel, parce que nous, là, dans notre bassin de vie, on a quelques zones aussi hein, qui sont anciennes, qui ont été construites dans les années 50, 60, etc. Donc on a deux tours hein, dans le quartier de Ranguin. Il n'y a pas beaucoup de... Alors il y a des gens qui partent effectivement, mais il y a aussi des gens qui restent. Et il y a un taux de rotation, si vous voulez, dans les logements sociaux qui est très bas. Donc il n'y a pas énormément de... ça bloque en fait, le parcours résidentiel bloque un petit peu.
Normalement le logement social c'était une étape vers un logement après intermédiaire et du logement privé
ça
finalement.
Ça dépend des contextes justement. Et
parfois, on est un peu bloqué sur des bails à vie.
Parfois c'est bloqué, c'est à vie. Voire une impression, mais encore une fois là on est dans une perception de transmissibilité qui n'existe pas hein, parce que la réglementation... Mais il y a des parcours résidentiels qui sont bloqués. Dans certains territoires, encore une fois, là, je pense que c'est vraiment, il faut être très fin, c'est vraiment au niveau du contexte. Hein. Il y a des contextes, certainement, où ça se fait de manière plus fluide que d'autres. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est extrêmement bloqué et c'est un problème.
Miguel Lalande, sur cette question de la nécessité aujourd'hui de faire de la mixité sociale, quelle est votre analyse sur, finalement, ces 40 ans de politique
Sur la nécessité de la mixité sociale, je vais avoir un avis un petit peu différent de Philippe ou de Magali qui ont un rôle de bailleur et un rôle aussi de politique. Nous, on est entreprise, on est association au niveau des nouvelles technologies. La mixité sociale, me dire que c'est une nécessité, ce serait la même chose que me dire est-ce que respirer est une nécessité pour un homme ? L'homme est un animal social, on le sait, qui a besoin du groupe, et le groupe ne peut pas être équivalent. Et quand vous êtes dans un circuit fermé, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'évolution. Donc la mixité sociale, c'est un élément fondamental sociétal. Moi, j'ai 43 ans depuis hier. Donc c'est
bon anniversaire.
C'est tout nouveau. Mais j'ai grandi dans des quartiers populaires, qu'on appelait populaires à l'époque, mais dans lequel, dans mon immeuble, j'avais un notaire qui était au-dessus, j'avais un ouvrier en bas, j'avais le boucher, j'avais le boulanger. Et ce qu'on dénomme la mixité sociale, c'est ce que j'appelle une ville, C'est ce que j'appelle la vie en collectivité. Donc le travail et la difficulté de la mixité, c'est justement de le faire rentrer dans des cases. De dire au bout d'un moment, il y a des gens riches qui veulent habiter dans des quartiers riches, il y a des gens pauvres qui vont habiter dans des quartiers pauvres, il y a des gens intermédiaires, bah, eux on sait pas trop où les mettre, mais ils vont habiter par là. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que on a tous besoin l'un des autres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez le financement d'une opération immobilière, tout simplement, si on parle du neuf, dans lequel on va avoir une loi qui va dire il y a 20% ou 25% d'habitat social, il y a 50-60% d'habitat en accession, et maintenant il y a un nouveau produit qui est arrivé, et qui on en parlait tout à l'heure avec ce qui se passe derrière, mais c'est l'abordable. Et là, on dit, bah, au bout d'un moment, on catégorise trois populations, les pauvres, les riches et la population moyenne. Et il y a une vision éclatée en silo. On avait dans nos fameuses administrations il y a 40 ans, et je pense qu'aujourd'hui, le gros travail qui a été fait, c'est de désiloter. Et bah, c'est exactement pareil pour moi au niveau du résidentiel. C'est cette capacité à faire travailler différents acteurs, un promoteur qui a des objectifs pécuniaires, financiers, capitalistiques, un bailleur social qui a une mission de service public, comme vous le disiez tout à l'heure, et un politique qui va avoir une vision d'urbanisme sur sa ville à 10, 15, 20 ou 30 ans. Et en fait, la mixité sociale, c'est avant tout la mise autour d'une table de ces trois acteurs pour qu'ils se comprennent et qu'ils arrivent à mettre en place un produit qui est capable d'accepter tout le monde. À l'époque, l'acceptation se faisait de facto parce que on habitait des quartiers. Et ça, c'est quelque chose qui est... Il faut surtout jamais décorréler le sentiment d'appartenance de la personne. Et même si on est dans une ville, et c'est souvent ce que je dis, une ville, c'est un amalgame de plusieurs villages. Et on a ce sentiment. Et c'est pas de dire un peu comme les...
C'est la question du vivre ensemble.
Mais en fait, c'est pour ça que la question du village, je veux pas revenir sur le fait qu'on est des bons vieux Gaulois, mais la réalité, c'est que le cercle, la communauté du village, c'est elle qui donne le fonctionnement de la mixité. Et quand vous faites fonctionner ce village, quand vous impulsez les bonnes informations, la bonne dynamique, vous pouvez avoir des gens d'Europe de l'Est, des gens d'Afrique, des gens des États-Unis, des Asiatiques, vous pouvez avoir des gens riches, pauvres, et ainsi de suite. Et au final, vous apercevez que tout le monde parle et tout le monde s'entend.
Alors, justement, parce que là, on est plutôt dans la phase de constat. À une époque, effectivement, il y avait cette mixité, j'allais dire même liée à l'identité des habitants. Et puis après, on a fini par les mettre par communauté. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on est à ce point créé des groupes entiers, soit par les revenus, mais souvent par, j'allais dire, le pays d'où ils venaient.
Moi, j'ai une petite... réponse, c'est qu'en fait, je pense que c'est une attirance forte des familles de se retrouver dans un contexte
rassurant. Peut-être.
Voilà. Et donc, il n'y a pas eu de décision. Il n'y a pas eu de décision du contraire, mais il n'y a pas eu de décision de dire, oh, allez, on va affecter les communautés. La France, en plus, a une autre vision que, par exemple, le monde anglo-saxon. Parce que dans le monde anglo-saxon, les communautés sont reconnues. Il n'y a pas de problème. La reine n'est pas du tout la reine britannique. C'est une reine des communautés britanniques. Alors que la France est une république une et indivisible. Donc, on a une vision complètement différente. Et en fait, souvent, on veut marier des familles qui n'ont pas envie forcément d'être ensemble. Après, une fois qu'elles ont commencé à vivre ensemble, elles se sont créées des solidarités, etc. Oui. Mais avant, c'est compliqué. Je vous donne un exemple parce que actuellement, je le vis dans mon organisme, avec mes collaborateurs, de manière un peu cruelle. Nous sommes en train de... on a un énorme projet, programme de rénovation urbaine sur la métropole de Lille, dont nous sommes originaires. Et quand je vous dis énorme, hein, c'est plus de 4000 démolitions, donc plus de 4000 relogements. Et on a une contrainte forte, puisque ça doit se faire sur 4 ans. Donc vous imaginez bien que quand on va trouver dans un quartier politique de la ville, dans des bars qui sont anciennes, je ne vais pas dire vétustes, parce que quand même on les entretient un peu, mais évidemment elles sont moins sexy que ce qui peut être un programme neuf, mais avec des loyers très très bas. Et que, évidemment, on a laissé s'enquister finalement la non-mixité. et que l'on explique qu'il faut quitter cette commune dans laquelle il y a le centre social qui tourne, dans lequel les enfants ont le repas gratuit, etc. On leur dit non, il faut aller dans la ville bourgeoise à côté. Dans la ville bourgeoise, ah non, il n'y a pas de transport en commun. Ah mais non, là, il va falloir que votre enfant paye sa cantine. Ah puis, vous êtes plus loin, bah, il vous faut une voiture parce que votre boulot, il n'a pas changé. Vous vous rendez compte ? Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que on a oublié le fait que finalement, dans une famille qui a des liens, le logement est la centralité de toutes ces fonctions. Donc, le déraciner pour le mettre ailleurs, c'est pas une question seulement de mixité, c'est que tout d'un coup, le concept qu'on a, nous, de mixité, en disant, bah, c'est bien de mettre des gens qui sont issus de QPV dans une ville bourgeoise, qu'on a forcé à construire des logements sociaux, sauf que personne ne le voulait, ni la ville bourgeoise, ni la famille qu'on a relogée, je vais dire quasiment de force.
C'était presque ma question d'ailleurs, parce que pour pouvoir faire de la mixité, il y a effectivement, et c'est les populations les plus aisées, ils fonctionnent aussi avec des a priori. Comment on arrive à les convaincre ?
Mais, si je peux me permettre, moi je pense qu'il faut éviter d'être englobant, parce que c'est vraiment c'est de la dentelle, vraiment. Quand on pense aux attributions, aux politiques de peuplement, etc., on est vraiment dans de la dentelle et c'est difficile d'être englobant. Parce que dans une résidence, vous n'allez pas avoir toutes les mêmes personnes qui bossent au même endroit ou qui ont leurs attaches, j'allais dire, au même endroit, les aides familiaux. Nous, on a beaucoup des gens qui veulent se rapprocher parce qu'ils sont aidants de populations vieillissantes ou alors parce qu'il y a des gardes d'enfants, etc. Donc chacun, chaque cellule familiale a son propre réseau. Donc je pense que d'une part, il faut vraiment continuer à faire du cas par cas, parce que c'est vraiment ça. Les commissions au niveau du logement social, ce sont les commissions d'attribution des logements, vous savez, qui attribuent, avec la marge de manœuvre qui est la leur, c'est-à-dire proche de zéro, puisque en fait c'est les réservataires qui proposent les personnes.
Un réservataire, c'est...
Un réservataire, il y en a en gros trois groupes, si vous voulez. Vous avez l'État, qui systématiquement prend 30% des logements. Vous avez Action Logement qui prend à peu près la même chose, et vous avez normalement la commune qui prend, à titre de la garantie d'emprunt ou parce qu'elle a subventionné un petit peu, elle va prendre un peu.
Parce que donc, la marge de manœuvre pour la municipalité, elle est très limitée, puisque c'est à peu près 30% de l'offre.
Ouais, ça dépend, mais si vous voulez, sur un bâti de 10 apparts, j'allais dire 3 sont réservés préfecture, 3 sont réservés Action Logement, peut-être 2 ou 3 pour la commune en fonction de... Voilà. Et le bailleur,
oui, vous êtes le
bailleur, mais ça dépend.
Nos bailleurs, 50%.
Bailleur public, oui, mais c'est pour ça. Et c'est pour ça, je reprends ce que disait Michael. Dans les bailleurs sociaux, vous avez des bailleurs sociaux publics et privés. Donc, c'est pas les mêmes logiques, c'est pas les mêmes forces de frappe non plus, au niveau des investissements, etc. Donc, ça, c'est important à tenir. Mais vraiment, en matière d'attribution, et je pense que, Philippe, je pense que ça se passe pareil pour Villogia, mais c'est vraiment de la dentelle.
Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je donnais un cas un peu caricatural pour illustrer la difficulté. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Mais effectivement, à chaque fois, c'est au cas par cas. Et jamais, j'allais dire, on peut le faire ni contre le bailleur, ni contre la commune, ni contre la famille. Ça veut dire qu'à chaque fois,
vous œuvrez à ce niveau-là, vous, en tant que promoteur, vous œuvrez sur les critères d'attribution, ou vous êtes plutôt là pour définir on va dire le type de logement qui est adapté aux besoins.
Alors,
quel est votre rôle ?
Les critères, il y a ceux qui sont prévus par la loi. Ensuite, il y a ceux qu'on négocie, nous, bailleurs sociaux, avec la ville. Parce qu'évidemment, les deux partenaires qui restent là pendant 50-60 ans, c'est la ville et le bailleur. Donc, on a tout pour s'entendre. Des fois, de temps en temps, on se raccorde, mais à 99%, on s'entend sur tout. Après, derrière, le troisième, c'est quand même la famille. Et les critères, il y a des critères qui sont plus ou moins objectif, niveau de revenus, etc., la composition de la famille, l'origine des revenus, c'est des critères qui sont assez objectifs. Puis il y a des critères qui sont totalement subjectifs, typiquement celui d'une communauté d'appartenance, etc. C'est complètement subjectif, et en plus on n'a pas le droit d'y fait référence. Mais par contre, on sait très bien quel caractère négatif ça peut avoir de regrouper dans une seule cage d'escalier, d'une seule entrée d'escalier, toujours les mêmes publics qui viennent du même pays d'appartenance en immigration. Et on le sait que c'est pas souhaitable, ni pour eux d'ailleurs, ni évidemment pour l'environnement. Donc la mixité sociale, c'est quelque chose, c'est un peu comme l'horizon. C'est-à-dire que on voit très bien où c'est, on y va, mais plus on s'approche de l'horizon, plus il continue à fuir, parce que c'est très très très, c'est de la dentelle, et c'est en permanence.
Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure de pouvoir avoir commencé à voir les bénéfices, puisque cette politique, on va dire ce sujet, ça fait quoi, une dizaine d'années dont on en parle de plus en plus?
Je pense une vingtaine.
Mais avec le temps de construction, on va dire. Mais
non, mais ça fait une vingtaine, parce que le premier programme en rue, il a démarré plan Borloo 2003. Et c'est là que on a. Et puis auparavant, il y avait des grandes politiques publiques qui s'appelaient les grands projets de ville, les grands projets urbains, GPU, GPV, depuis le milieu des années 90. Donc, en fait, on a eu très peu de temps où cette situation de non-mixité s'est installée un peu par défaut. C'est la fin des années 70. Ou encore ce que vous dites, c'est vrai, c'est que vraiment dans les grandes barres d'HM, il y avait encore une vraie mixité de fonction, d'appartenance, etc. Et le début de la politique de la ville, fin des années 80, une dizaine d'années. Et là, après, bah, c'est beaucoup, enfin, c'est très difficile, vu le faible taux de rotation, vu ensuite.
C'est pour ça que j'ai finalement, même sur 20 ans, on peut commencer peut-être que maintenant à en tirer un peu un premier bilan. Miguel Lalande.
Pardon. Non, juste pour revenir, parce que effectivement, on a parlé de commission d'affectation, c'est ça ?
En commission d'attribution des logements. Voilà, on a rajouté un éole qui n'est pas du vent, examen de l'occupation des logements, nouvelle loi. Donc c'est des caléoles maintenant.
Des caléoles. Voilà, donc déjà, il faut être ingénieur. Déjà,
oui. Pour... Non, c'est la France. Donc, c'est la France.
C'est ça. Et donc sur les commissions d'affectation, donc vous voyez bien qu'il y a déjà un travail, parce que on parle d'humains, on parle de personnes, on parle de familles. On n'est pas en train de parler d'un produit sur lequel on le positionne. Il y a des gens qui vont y faire des enfants, qui vont y les élever, qui vont avoir des petits-enfants et qui vont transmettre. Le taux de rotation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et parce que c'est justement, les gens ne bougent pas, ne veulent pas bouger, et parce que déjà, peut-être, parce que les bailleurs et leurs bailleurs s'occupent bien d'eux, déjà, il faut... Et voilà, oui, et la deuxième sujet, c'est l'herbe est toujours plus verte ailleurs, comme on dit, mais quand au moment de prendre l'acte, enfin de faire l'acte de partir, il y a souvent un retrait, parce que on a peur de ce qu'il va y avoir. Parce que, et ça c'est un élément...
C'est parce que les classes moyennes ont disparu, c'est-à-dire peut-être un problème de pouvoir d'achat,
c'est
de
surtout
pouvoir passer sur un logement privé ou à l'acquisition.
En fait, il y a deux choses. C'est Magali parlait du parcours résidentiel avec Philippe, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que c'est ce qui drive, en fait, la politique d'habitat de la personne. Et on le voit, aujourd'hui, la valeur refuge, depuis 100 ans, c'est toujours la même en France.
C'est la pierre.
C'est la pierre. On vous le dit, on vous le rabâche. Vous arrivez à 18 ans avec votre livret jeune, la première chose qu'on va vous dire, c'est qu'il faut que vous mettiez des sous pour pouvoir avoir l'apport pour acheter votre premier appart. Donc on est quand même dans une démarche où la stabilité du logement, du toit, on peut repartir sur la pyramide de Maslow, hein, mais la sécurité qu'elle apporte, c'est fondamental pour une famille. Et une famille aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans l'économie, dans le monde, dans ces 20 ou 20 ou 30 dernières années, parce qu'il y a un élément qui est quand même très important, merci Philippe, qui est très important, c'est l'accès à l'information. On dit les gens se sont communautarisés, il faut pas oublier que les technologies, là pour le coup je veux pas revenir sur ma paroisse, mais ont énormément évolué, et les gens ont un accès à l'information qui a énormément grandi. Donc ça veut dire que l'aspect communautaire qu'on vit aujourd'hui, il est pas lié à la politique de logement qu'on a mis en place ces 50 dernières années. Il est lié à Facebook, il est lié à Instagram, il est lié à ce que les gens voient à la télé sur les Marseillais, toutes les émissions de télé-réalité qui créent aussi cet amalgame sur les gens, à qui ils veulent ressembler, à qui et ce qu'ils veulent faire. Et ça, aujourd'hui, dans une politique de logement, ben, vous avez ce que vous pouvez, par rapport à vos revenus et par est-ce que vous souhaitez. Et c'est là où il y a un jeu qui est extrêmement difficile, parce que la mixité sociale, on la prend toujours du côté de la personne qui n'a pas d'argent. Et donc de dire parce que c'est une obligation pour elle. Mais à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans un modèle, pour que le modèle y tourne, il faut bien qu'il y ait des gens en haut qui payent. Donc qui sont en phase avec cette mixité sociale. Le socialisme de nos années passées, entre guillemets, où on était là en disant l'économie du partage, de dire les riches payent pour les pauvres. Sauf que l'effet pervers de ce qui s'est fait derrière, c'est que les gens se sont dédouanés. Ils disent, mais moi, tu sais combien je paye d'impôts? Tu sais ce que j'ai fait? Donc en plus, je vais pas aller habiter dans un bâtiment où j'ai 30% de social. Parce que je fais déjà ma part. Chose qui n'existait pas il y a 20 ans ou 30 ans. Moi, j'avais un père qui était content de payer ses impôts parce qu'il disait, c'est grâce à ça qu'on a un grand pays. Je voulais vous mettre au défi de réentendre ce discours aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, la mixité. Elle est à double sens. Elle peut pas être issue que des politiques et des professionnels, mais elle doit être issue de la population.
Il y a un engagement citoyen, ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience.
Et c'est pour ça que les gens doivent se connaître.
Et c'est une question d'image. Moi, je pense qu'il y a vraiment.
Vous aviez démarré par ça, d'ailleurs.
Mais parce que je pense que c'est vraiment important. Parce que dans les 30% que vous citez, il y a des gens, on les applaudissait il y a 2 ans, hein, les infirmières, les aides-soignants, etc. Ils sont là. C'est pas la peine de les applaudir si on n'y va pas non plus. Mais après, je voulais juste dire quelque chose sur la question, cette question-là justement du social, si vous voulez, la grille de lecture des bailleurs, c'est un petit peu c'est leur modèle économique. Et on a fonctionné par la politique publique en matière de logement, ça a fonctionné à la française, comme par des logiques d'empilement. Donc là, effectivement, et c'est ce que vous disiez, hein, Michael, on comprend plus rien.
Empilement de réglementation.
Ah, de réglementation.
Empilement de normes, de réglementation, de lois.
Une, deux à trois lois
avec des acronymes.
Non, mais
on ne comprend rien. Alors nous, on comprend rien déjà, et on est dedans. Donc vous imaginez, usager moyen, il veut juste se loger. Et donc quand on lui explique, moi je le vois en permanence de quartier, donc, mais je fais beaucoup de pédagogie aussi parce que je veux que les gens comprennent. Mais après, ça ne leur ôte pas le problème de suroccupation ou sous-occupation. Mais je veux qu'ils comprennent les marges de manœuvre aussi qui sont les nôtres et qui sont finalement vraiment vraiment faibles. Donc il y a, à mon avis, une déconstruction à faire. Il faut arrêter de faire des lois. Il faut juste enlever. Il y a peut-être un changement de logiciel aussi, de pas. Parce que les modèles PLAI+, etc., qui conditionnent les plafonds de revenus dont je parlais tout à l'heure, hein, des gens, familles de 4 personnes entre 20 et 50, vraiment, c'est, et en fonction de la catégorie dans laquelle vous êtes. Et ça conditionne énormément de choses. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut essayer de casser, tout simplement. Mais il faut un courage politique, très honnêtement, pour faire ça.
Parce que là, on est au cœur de la campagne présidentielle. Est-ce que vous avez l'impression que les candidats prennent conscience de ces enjeux? Philippe.
Alors moi je dirais que c'est toujours la même chose, les candidats ils parlent aux Français des préoccupations consensuelles, donc le pouvoir d'achat, actuellement il y a le camarade Poutine qui change un peu le tropisme.
C'est sûr, mais dans le pouvoir d'achat, il y a le pouvoir d'achat immobilier.
Oui.
Il y a l'énergie, il y a l'essence, tout ça joue et impacte, il n'y a pas que le coût du logement.
Oui, mais le logement pour le coup, c'est bien plus qu'un problème de pouvoir d'achat. Parce que c'est tout ce qu'on a dit avant, c'est que c'est l'endroit même où s'exercent toutes les solidarités pour une famille. C'est moi je travaille, heureusement que je suis pas loin de chez ma belle-mère, elle va chercher les petits à l'école et puis elle les amène etc. Donc voyez, le problème c'est que on ne résoudra pas le problème uniquement par une question de pouvoir d'achat. En fait, on est dans des logiques importantes, c'est comment on construit la ville, quand même pas oublier que les UP, elles sont issues de la charte d'Athènes. La charte d'Athènes, 1930, hein, Le Corbusier, cherchait précisément à construire les extensions de la ville en spécialisant les zones. Donc en spécialisant les zones, il y avait une zone logement. C'est là, et tout ça c'était pour préserver les centres anciens, hein. Je crache pas sur Corbu. Pour préserver les centres anciens, après on spécialise, il y a des zones pour travailler, des zones pour le commerce, la culture, et une zone pour le logement. Eh ben, une zone pour le logement, ça fait pas la ville. Et aujourd'hui, toutes nos politiques réparatrices sont pour faire revenir la ville au sens mixité de fonctions au cœur des ZUP. Et en fait, c'est énormément d'argent juste pour réparer. Après, derrière, on sait bien que quand il n'y a pas de commerce, y a des solidarités qui se débrouillent avec des commerces un peu informels, et pas seulement pour les biens de première nécessité, etc., etc. Et c'est ça qui a fait que nos ZUP ont commencé à avoir une mauvaise image, et donc le tri par défaut, qui c'est qui y va, ceux qui n'ont vraiment pas les moyens d'aller ailleurs, etc., etc. Donc, en fait, la pyramide dégringolante, il faut la reconstruire dans l'autre sens. Et pour ça, redonner de l'attractivité, c'est le projet en rue, redonner de l'attractivité, c'est dire, vous voyez, dans ces quartiers-là, maintenant, il y a plein de choses vachement sympas, il y a le troquet au bout du coin, il y a la boulangerie, il y a, etc. Et puis, il y a la salle de spectacle, tant qu'à faire, voilà. Et ça, c'est des enjeux colossaux, ça va prendre, 20 ans.
D'après vous, et je reste sur la question politique, je vous redonne la parole, Michael Lalande, mais ça doit être le rôle de l'État, ou est-ce que ça doit être décentralisé, finalement, au maire?
Ça, c'est plutôt une question pour Magali, du coup.
Vous avez le droit de donner un avis.
Alors, juste avant de laisser Magali répondre, du coup,
c'est l'invité courageuse du plateau. Hein.
Non, mais je voulais juste revenir sur ce que disait Philippe, parce que c'est extrêmement important. C'est que aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de mixité sociale s'il n'y a pas de mixité d'usage. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, et Le Corbusier, c'est son œuvre, enfin je l'ai étudié énormément parce que d'un point de vue sociologique, enfin c'est extrêmement intéressant, cette vision découpée en silos dont on parlait tout à l'heure, c'est elle qui casse en fait la mixité. Parce que justement, les gens, Philippe parlait du troquet tout à l'heure, moi j'avais un père, oui, qui allait au PMU tous les dimanches, et il lisait le canard le dimanche matin, et en même temps qu'il lisait, qu'il avait les informations, il voyait tous les copains. Donc ça veut dire que moi je voyais les fils de ses amis, c'était le moment de on va dire de rencontre, c'était le dimanche, enfin en tout cas en France c'est le jour où personne travaillait, et le truc c'est que il y avait quoi dans mon quartier, il y avait une boulangerie, donc où on allait chercher les croissants, la brioche et ainsi de suite, il y avait une boulangerie orientale dans laquelle il y avait là plutôt les pâtisseries orientales et ainsi de suite, on avait dans le même quartier, il y avait une église évidemment, il y avait une synagogue, donc dans ma jeunesse, j'ai jamais vu une pierre jetée, j'ai jamais vu des choses cassées, j'ai jamais vu, il y avait un profond respect parce que les gens trouvaient ce qu'ils voulaient, avaient leurs usages au sein de leur quartier. Et on leur a pas dit ici c'est un quartier où t'auras que ça, ici t'auras que ça, où les gens ne peuvent pas s'identifier. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'attachement, l'identification, c'est l'une des bases de cette mixité sociale, et elle passe par cette mixité d'usage. Donc maintenant, je vous laisse reposer la question.
Oui, j'ai bien vu que j'aurais pas la réponse sur l'aspect politique.
Bon, en fait, votre question, Stéphane, c'est qui paye, en fait, hein, qui doit payer? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les mairies? Moi, juste un petit rappel.
Qui doit payer? Qui doit produire finalement de la dynamique. Enfin, j'essaie de je parle pas de production de logement, mais
oui, ça revient à qui paye, parce que je vous donne juste notre bassin de vie. Cannes, Pays de Reims.
On donne beaucoup de responsabilités aux municipalités, ils ont un peu moins d'argent, donc c'est compliqué.
Absolument. Mais notre bassin de vie, c'est un peu plus de 6000 demandeurs qui sont inscrits, et une rotation annuelle, tout bailleur confondu, de un peu plus de 500 par an, qui inclut les nouveaux demandeurs et les mutations. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes en T2 et que vous êtes à 5, à un moment, il faut quand même muter. Donc, vous voyez bien, il y en a, bon, même j'allais dire, dans les 5500, si il y a peut-être des demandes de confort, entre guillemets, dans les 5500, enfin, vous voyez bien le gap, déjà, voilà. Alors, l'État subventionne pour les logements sociaux, donc plutôt la tranche 20 000 euros pour la famille de 4 personnes, pour la construction de ça, à hauteur de un peu moins de 10 000 euros, et les communes, également, hein, subventionnent, on vous a subventionné il n'y a pas longtemps, Philippe.
Je vous remercie.
Voilà. Mais voilà, c'est une question de, parce que la grille de lecture, c'est vraiment le modèle économique en fait hein, du bailleur qui va regarder en gros. Hein, ils sont assez basiques hein, les bailleurs sociaux. Ils regardent que la somme des loyers encaissés rembourse le crédit. Mmh. Et donc il y a un modèle économique
sur 60 ans.
Comme les,
donc,
comme les loyers.
On va loin, nous.
Comme les loyers sont encadrés.
On ferait la même chose avec notre porte-monnaie.
On ferait la même chose, mais vous imaginez bien que dans des territoires où le foncier
est très élevé.
Je veux dire, les prix des appartements qui sont dédiés aux plus bas revenus, hein, ça va tourner autour de 5 euros du mètre, si vous voulez. Donc, vous imaginez bien que le delta, voilà, en gros, nous, là, sur notre territoire, on a un déséquilibre, on va dire ça comme ça. Il y en a plus de logements sociaux du côté de Cannes Ouest que de Cannes Est. Bon, à Cannes Est, le foncier est plus cher aussi. Mais ça revient à qui ? Je veux dire, comment on met à l'équilibre les modèles des bailleurs ? Et effectivement, l'État donne une part, les communes donnent une part, les bailleurs sociaux aussi donnent une part de plus en plus importante. Moi, je parlais avec mon directeur général il y a pas longtemps. Il disait que lui, quand il a commencé à travailler, c'était quelques pourcentages, j'allais dire, mais là, on est quasiment à 50% de fonds propres sur certaines opérations pour un bailleur public, ce qui est énorme, ce qui est énorme. Donc on voit bien que la part, y a quelque chose qui ne va pas. Et de l'autre côté, du côté usager, qu'il ne faut jamais oublier, vous voyez bien que la part aussi allouée au logement, elle devient de plus en plus grande en fait. Hein. C'est vraiment un poste de dépense qui devient de plus en plus important avec des logiques derrière qui sont les gens sont acteurs bien évidemment, mais ils sont acteurs avec les moyens qu'ils ont, donc, et certains ont plus de réseaux sociaux que d'autres, plus de sécurité dans leur emploi, plus de d'élan ascendant, on va dire ça comme ça, et puis il y en a d'autres, non quoi. Donc, mais je pense qu'on a un problème à regarder ça en face, le fait que parfois ça stagne, mais il y a beaucoup de gens qui stagnent aussi. Et
en fait, le problème, voilà. c'est qu'il y a beaucoup de logements vacants dans les zones non tendues et beaucoup de logements qui manquent dans les zones tendues. D'où vient la tension ? Le président Hollande en a parlé un peu. On a arrêté de faire de l'aménagement du territoire, donc les phénomènes d'attractivité non contrôlés, non décidés s'imposent, c'est la métropolisation. Toujours de plus en plus de gens au port des métropoles et toujours de moins en moins de gens dans les villes secondaires ou les villes moyennes. Et donc, dans les villes moyennes, un taux de vacances astronomique, y compris dans le parc social, hein, y compris dans le parc social. Et puis, le foncier qui explose de plus en plus sur toutes les métropoles, c'est un phénomène mondial. Donc, c'est pas un phénomène où on est juste renvoyé à nos propres turpitudes. Le problème, c'est effectivement qui finance. Au bout du bout, chez nous, l'acteur suprême de la solidarité nationale, c'est toujours l'État.
Oui.
Donc l'État, et puis nous les Français, on adore ça, on se retourne vers l'État en disant mais qu'est-ce qu'il fait l'État ?
Que fait-il ?
Mais que fait le gouvernement ?
Que fait le gouvernement ? C'est intéressant cette question, parce que ce qu'on peut remarquer comme phénomène immobilier après cette période de Covid, c'est un peu la reconquête, ce qu'on appelle des villes moyennes. Et est-ce qu'on le ressent au niveau du logement social, ou est-ce que c'est juste un fantasme des pros de l'immobilier ? Première question, et la deuxième, ça pose la question globalement de la mobilité. Parce que on parle aujourd'hui de l'essence, mais quand vous avez deux véhicules, parce que vous êtes un peu éloigné, vous êtes obligé chacun d'avoir deux véhicules, ça pose des vrais problèmes de pouvoir d'achat. On en parlait, sans parler de la fracture numérique. Vous en pensez quoi sur cette reconquête dont on parle des villes moyennes, Michael Lalande?
Écoutez, sur la reconquête, parce qu'effectivement, nous, on travaille sur Idealis, sur ma société, on travaille principalement avec des aménageurs, avec des promoteurs et des gestionnaires d'actifs. Et on a effectivement vu cette tendance depuis un an où les villes moyennes, alors si je prends mon épicentre comme vous le faites sur Lille, moi je vais le faire sur Montpellier, entre Béziers et Nîmes, qui sont donc les deux villes autour de Montpellier importante, et vous avez après autour des plus petites villes comme la Vérune ou Lunel si vous montez plus haut. Effectivement, c'est des villes qui sont prises d'assaut aujourd'hui par la promotion immobilière, mais je pense que c'est plus lié à des politique d'aménagement ou de promotion immobilière dans les grandes métropoles, parce qu'il y a eu un changement politique fort avec les municipales, et il y a des grandes villes qui ont décidé de mettre un frein réel, notamment sur le diffus, ce qu'on appelle la construction diffuse, pour recentrer sur la programmation en ZAC ou en quartier, on va dire, maîtrisé. Et ça fait que les villes moyennes qui étaient plus ouvertes à la discussion ou un peu plus flex sur, comme on dit chez nous, sur les attributions ou en tout cas sur le fait de faire des tours de table pour avoir des projets, et ben du coup ont repris toutes leurs lettres de noblesse et effectivement il y a des vrais projets immobiliers maintenant qui se font dans des villes moyennes. Et quand je dis des vrais projets immobiliers, c'est des 10, 15, 20 000 mètres carrés, donc qui sont plus, généralement qui étaient plutôt orientés vers les métropoles qui étaient capables d'absorber. Mais aujourd'hui, des 100, 150 logements qui arrivent dans des petites villes de 20 ou 25 000 habitants, ça se fait très bien. Et pourquoi ? Parce que justement, il faut quand même qu'on garde en tête l'évolution de notre monde, des outils, du travail, de la mobilité, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, il existe des solutions, et on le voit depuis 3 ans avec le Covid, ça avait commencé un petit peu avant, mais depuis 2 ans, c'est 2019, fin 2019, début 2020 avec le Covid qui est arrivé en 2020, où le télétravail a mis un coût énorme quand même sur les espaces de bureaux et les gens qui devaient aller travailler quand ils étaient dans le service. J'insiste bien parce que le télétravail ne correspond pas à tous les métiers. Quand vous êtes dans un métier manuel ou vous travaillez à l'usine, jusqu'à preuve du contraire, vous pouvez pas foutre votre poste de travail dans le salon. Et il y en a qui ont essayé et ils ont pas réussi. Mais par contre, ça redonne, on va dire, ça redispatche un petit peu la capacité qu'ont les gens de se loger. Donc ça veut dire qu'il y a alors je vais redonner aussi des exemples. Alors dans le Nord, je crois, à Lille, il y a eu énormément de travail qui a été fait sur le TER, donc des investissements massifs qui ont été faits sur le train pour justement être capable de calibrer en moins de 10 minutes ou 15 minutes des villes moyennes avec des centres-villes de grosses agglos. Donc ça, c'est les pouvoirs publics aussi qui permettent de faire ce genre de choses. Donc quand vous mélangez le télétravail, les nouvelles solutions de mobilité, le covoiturage qui, alors après, on pourra dire ce qu'on veut, mais ça marche énormément, notamment pour ce qu'on appelle les pendulaires, donc ceux qui viennent des banlieues pour aller dans les centres-villes ou ceux des centres-villes qui vont travailler dans les zones périphériques. Le covoiturage est une solution magique. Les BHNS, les bus à haut niveau de service, c'est où on rentre pas dans les grosses infrastructures, mais qui permettent quand même aux gens de leur donner une possibilité d'aller 15-20 minutes plus loin. Et c'est parce que au final, je vais pas citer Carlos Ghosn, mais Carlos Moreno, avec la ville du quart d'heure, mais c'est ça en fait. C'est 15-20 minutes, 25 minutes. Quand vous parliez tout à l'heure des familles,
c'est le temps acceptable.
Mais qui est le temps acceptable?
C'est le temps accepté.
C'est justement cette instantanéité en fait de la ville, de l'attente qu'on en a. Et quand on habite en métropole, on n'a pas les mêmes attentes que quand on habite dans un patelin de 500 habitants, où effectivement on a le temps d'attendre, on a le temps de tout faire. Là en ville, c'est speed, c'est un peu agressif. Il y a les horaires, il y a les embouteillages, et donc si vous apportez pas en fait aux gens ces infrastructures qui leur permettent de s'éloigner, donc un petit peu, hein, et quand je dis s'éloigner, c'est pas partir.
C'est-à-dire, faut avoir des écoles, faut mettre des transports pour pouvoir permettre à ces gens-là d'avoir un logement de meilleure qualité. C'est ce que j'entends.
C'est ça.
Dans un confort quand même d'accès à son travail, avec une demi-heure de temps de transport.
Mais c'est surtout que les villes moyennes sont les grands gagnants en fait. Si je reviens sur votre question de ce mini exode contrôlé, on va dire, parce que l'élément quand même de base vis-à-vis du logement et de son emplacement, ça reste quand même votre activité professionnelle. En tout cas, ce qui a un impact le plus dans votre vie, donc ça peut être la famille qui est proche parce que vous le vivez. Moi, j'ai des parents qui habitent très loin, c'est une galère sans nom, donc on a tout de suite envie de se rapprocher. et surtout ce qui nous fait gagner notre croûte. Donc si vous devez passer une heure dans la voiture le matin et une heure le soir, et ben là encore aujourd'hui ça fait grosso modo une centaine de kilomètres par jour. Quand vous prenez le prix au litre de gasoil aujourd'hui ou d'essence, et ben les gens ne peuvent même plus se dire je vais acheter une maison ou un appartement moins cher ou aller demander un logement social plus loin. Parce qu'au final, ce que je vais avoir, je vais le bouffer
perdre,
au quotidien.
Soit en temps de transport, soit en budget.
Donc et en fait, c'est ce qui fait la mixité sociale, encore une fois. C'est que finalement, ne peuvent pas se payer les gens leur logement ou leur logement plus leur transport. Et en fait, c'est une ségrégation qui se fait par l'argent. C'est pour ça qu'on en revient à l'argent. C'est toute une question de base. Sachant que, après, c'est les pouvoirs publics qui rejouent les solidarités dans l'autre sens. Bah si, parce que globalement...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Philippe?
C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a un écart entre les... Il y a une différence entre les écarts de revenus nets... le niveau de vie, puisqu'il y a quand même des... En France, on est les champions du monde, et c'est bien, du système de redistribution sociale, et que le système de redistribution sociale, c'est de l'invisible. Ce que je disais tout à l'heure, la cantine gratuite pour des gens, le centre social qui occupe les enfants, etc. Quand vous arrivez dans une ville un peu plus bourgeoise qui n'a pas ça, ben, ça coûte cher pour une famille modeste. Voilà.
D'accord, j'ai compris. Alors il y a une étude anglaise, je crois, qui est très intéressante, parce que derrière la mixité sociale, on essaye aussi de lutter contre la ségrégation et quelque part de repermettre l'ascenseur social. Et elle est très intéressante parce qu'elle faisait une analyse sur la scolarité et qui explique que si on veut lutter contre la ségrégation, il faut aller un tiers de très bons, un tiers de bons élèves, et puis on peut avoir un tiers d'élèves plus en difficulté, mais c'est ce qui va lutter contre la ségrégation. Comment on arrive à lier les deux? Alors là, peut-être c'est plus une question politique, vous êtes sur le logement, parce que c'est un peu lié, c'est-à-dire qu'on crée de la mixité sociale, ça veut dire aussi que des enfants vont probablement aller dans des établissements moins fracturés, en tout cas moins clivants, et comment on assure demain que on puisse maintenir cet ascenseur social dont tout le monde parle et dont on n'est pas sûr qu'aujourd'hui vraiment ça fonctionne réellement.
Magali, c'est pour vous.
Merci Philippe.
Oui, c'est merci. Pas ce que j'allais dire, mais on lutte derrière ce sujet du mieux vivre finalement, c'est ça la mixité sociale, se pose aussi la question demain de faire sortir ces enfants de ce cycle-là,
oui,
ça passe aussi par l'éducation, donc comment on fait en sorte d'assurer demain l'ascenseur social?
Bon, moi je suis toujours assez précautionneuse. Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure sur les approches englobantes.
Je sais.
Bien sûr, il y a la carte scolaire, donc qui fait que l'école est liée au quartier. Bon, écoutez, moi très honnêtement, j'allais dans le quartier qui était un ancien, enfin c'est un QPV encore maintenant. Mon école primaire était là, mon collège était là, et après je suis partie en ville à Cannes pour faire mes études. Mais si vous voulez. Il n'y a pas de déterminisme sociaux parce qu'on habite en HLM, donc on a forcément... il y a bien sûr des fractures du temps, etc. Mais je veux dire, il y a beaucoup de personnes aussi, justement, qui arrivent à le prendre, cet ascenseur. Et enfin, moi qui suis plutôt pro-école républicaine, je trouve qu'on a quand même une école... public qui permet aussi de prendre son ascenseur.
La chance pour tous.
C'est pas qu'un mythe. Alors je dis pas qu'il faut pas cravacher, peut-être plus dur que les autres, parce que mais c'est pas qu'un mythe. Il y en a qui le prennent, et donc il faut mettre en valeur ceux qui le prennent, et je pense plutôt encore le rôle pédagogique aussi, de faire le retour aussi dans les quartiers, mais il y en a qui le prennent, et ça il faut le dire. Il faut peut-être plus le dire que ce qu'on dit. Pour notre bassin de vie, nous dans, et je reviens, je m'excuse, ça va être très vénal, mais c'est le critère prix et pas anodin. Nous en hypercentre, ici, on perd des gens. On perd des populations. Je parle même pas de.
Ceux qui nous écoutent, c'est qu'on enregistre l'émission et nous sommes à Cannes.
Oui.
Pas la ville, évidemment, la moins chère au mètre carré.
Non, au mètre carré.
Voilà.
Mais c'est.
D'où la question, évidemment, du coût pour du logement social. Je vous laisse reprendre la parole, Magali. C'est pour comprendre, évidemment, pour ceux qui nous écoutent pendant cette émission.
Non, mais vous avez raison, Stéphane, de faire ce rappel de contexte, parce que c'est vrai qu'on a une ville moyenne, mais qui est déjà attractive, en fait, qui n'a pas attendu le Covid, effectivement. Mais pour le coup, on a des prix au mètre carré assez monstrueux, si vous voulez. Et c'est vrai qu'on est vigilant, hein. On essaie de voir quand certaines DIA, etc., de flécher même hein, certains promoteurs, bailleurs sociaux, etc., pour leur dire est-ce que vous allez. Mais à la fin, si vous voulez, le bas qui blesse, c'est toujours le modèle économique pour y aller. Et beaucoup d'opérations, enfin, on n'arrive pas sans aller. Alors, au niveau de notre territoire, nous, on essaie de flécher un petit peu plus dans le diffus. Alors, ce qu'on appelle dans le diffus, c'est justement cibler appartement, donc faire encore de la dentelle appartement par appartement, etc., avec ou immeuble par immeuble, mais avec voilà la question du prix aussi qui revient, parce que vous imaginez bien que ça coûte, là à l'heure actuelle, ça coûte plus cher de réhabiliter, si vous voulez, parce qu'on oblige à réhabiliter avec les normes du neuf, ça coûte plus cher de réhabiliter que de construire. Donc, et après, avec les contraintes, bon, que d'autres territoires ont, hein, sur les contraintes d'inondabilité, etc., bon, qui fait que le foncier se rétrécit comme une peau de chagrin de plus en plus, et dans certains territoires comme le nôtre, qui est avec des prix vraiment astronomiques.
Est-ce que ça pose pas la question, puisque si je fais le lien entre la mobilité et finalement, si vous vous déplacez légèrement, et pas uniquement sur la commune de Cannes, les prix du mètre carré sont pas tout à fait les mêmes, mais faut-il encore assurer des transports pour que ceux qui travaillent dans la région puissent venir rapidement. Est-ce que finalement, ce taux-là, qui est pour les maires, alors pour certains une obsession ou pas, mais en tout cas, est-ce que ça ne doit pas être élargi à la communauté, finalement, urbaine, que de le conscrire à chaque ville?
Je crois que c'est le cas de la décision de la loi 3DS. Ah,
d'accord.
C'est d'élargir un petit peu le bassin de comptabilité.
Il y a quand même des taxes aujourd'hui.
Il y a des pénalités.
Des pénalités, pour le terme exact. Des pénalités si vous voulez... qui sont imposées aux... Certains préfèrent payer, c'est ça que vous vouliez dire?
Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, avant de payer la taxe, il faut avoir démontré une forme
de passivité.
Oui, c'est ça. Parce qu'au départ, il y a un constat, évidemment, de déficit, hein, quand on n'est pas au 25% de logements sociaux. Et puis ensuite, bon, ben, il y a la volonté de la municipalité ou de la capacité. Et c'est quand il y a un déficit qui dure un peu longtemps que là, le préfet décide qu'elle est carencée et qu'il fixe une amende et qui peut être jusqu'à quintuplé, hein, je crois.
Donc, je me permets parce que nous on est carencés.
S'il vous plaît.
Nous on est à 17, hein, on est à 17%.
C'est déjà
au niveau de Cannes. Donc,
on imagine Cannes, c'est déjà un très bon taux.
Je crois qu'il y a 7700 LLS sur le territoire. L'OPH en a un petit peu plus que la moitié. Donc nous on est carencés, on n'est pas RS5. C'est pour autant on est le meilleur, c'est le meilleur taux du département, 17%. Le meilleur taux des Alpes-Maritimes. Ça ne nous a pas empêché de se prendre une carence. D'autres communes n'ont pas la carence, mais sont moins bons entre guillemets que nous.
Incroyable, puisque c'est probablement la ville dont le prix du mètre carré est le plus élevé.
Ouais. Après, par rapport à notre profil aussi de personnes qui résident dans la ville de Cannes, ça c'est pas assez dit, mais il y a 20% de personnes à Cannes qui sont au niveau du seuil de pauvreté. Donc il y a un réel besoin de logements abordables aussi dans cette ville-là. Donc on est à 17, vous voyez qu'il y a déjà un gap entre 17 et 20, et il y a encore ce gap entre 17 et 25. Donc il y a des accords avec l'État, des engagements triennaux, etc., qui sont... on travaille en bonne concertation, en plus, avec les services de l'État, mais parfois, le coup près tombe, etc. Donc, il y a des réalités de territoire que la loi, effectivement, Philippe en parlait, la nouvelle loi va tendre un petit peu, on va s'engager encore dans des contrats de mixité sociale, etc., donc ça délègue un petit peu plus.
De plus
voilà. C'est ça. Les QPV, alors... Les QPV disparaissent, si vous voulez, normalement, à moins que ce soit empilé, mais normalement, en fin d'année, années, ça disparaît, et puis après, ça va être relancé là. Donc, franchement, on va voir ce que ça change. Mais je veux dire, ce qui change pas, c'est la rareté du foncier. Et ça, c'est pas la nouvelle loi qui va changer ça. Et si vous voulez, la carence, c'est aussi qu'on perd notre droit de préemption hein, en tant que commune. Et donc là, c'est la préfecture en fait qui le récupère. Et donc c'est des procédures encore en plus.
Qui
vient alourdir. Et vous savez, sur le foncier, c'est des questions d'opportunité. Parfois, il faut aller vite aussi. Donc c'est des choses qui alourdissent de manière franchement inutile. La pénalité, je n'y reviens, parce que il y a des pénalités donc qui sont calculées et alors qui peuvent être déduites en fonction de l'investissement hein, qu'on fait sur les logements sociaux. Donc la subvention qu'on a donnée à Villogia par exemple nous a permis de déduire notre pénalité. Donc il y a des mécanismes si vous voulez qui s'équilibrent, mais c'est un petit peu cette logique de bâton qui alors a été peut-être nécessaire pour dire
réveillez-vous. C'est ça que vous voulez dire?
Oui, peut-être, parce que enfin, c'est une réelle réalité. Moi, je le vois en permanence de quartier. En plus, je suis identifiée logement, donc la majorité des gens qui viennent me voir, c'est vraiment pour ça. Et on voit vraiment, tout le besoin. Franchement, on les a hein, en pleine face, j'allais dire. Et là, on voit qu'il y a un réel problème qui est un peu le problème un peu insoluble. Mais je pense qu'il faut une volonté vraiment politique forte, parce que c'est quelque chose. C'est le foyer, c'est l'intimité, c'est sa dignité. Voilà. Point.
Eh bien, c'était presque le mot de la fin, puisque j'allais justement, on arrive au terme de l'émission, vous donner la parole. Je ne sais pas si vous voudrez rajouter un mot, Magali Chelpi, mais en tout cas, pour conclure, est-ce que vous avez un dernier message sur ce sujet, sur la mixité? Philippe Rémignon, président de Villogia, je le rappelle.
Moi, je voudrais juste dire qu'on rigole beaucoup là sur « mais c'est la France ». Quel que soit le sujet que vous abordez, voyez, on se bat. Ça veut dire que c'est quand même un pays. On peut pas dire comme certains candidats. Et regardez, en plus, on fait rien. Non, sur tous ces domaines-là, qui sont tous problématiques, on se bat collectivement, collectivité, organisme d'intérêt général, promoteur privé aussi, l'État. Donc, on peut rigoler, mais la France, c'est quand même quelqu'un qui prend ces problèmes-là à bras le corps. Elle n'a pas toujours la réponse appropriée parce qu'on préfère résoudre ça par une loi. Hein, alors que des fois, une bonne intelligence suffit, mais on se bat. Ça veut dire que la mixité sociale, ça n'existe pas, mais la France continue toujours à la rêver. Ça, c'est important de le dire.
C'est beau. Continuons de rêver. Michael Lalonde.
Pour ma part, je pense que la mixité sociale, comme je disais en introduction, elle fait partie de nous, elle fait partie des valeurs de la République française. Donc le fait, comme le dit Philippe, que les acteurs se battent pour, je pense que on est fait pour ça. Et, on va continuer. Mais c'est surtout que elle est aujourd'hui, elle peut être facilitée. Et elle peut, par une nouvelle image, par le fait qu'on retravaille justement ces institutions, ces attributions, ces cases dans lesquelles on met les gens et dans lesquelles ils ont plus envie d'être. Et aujourd'hui, quand on parlait des mixités d'usage, quand on commence à mélanger du travail avec des commerces, avec des logements, c'est là où on a de l'inclusion. Donc ça veut dire des gens, et moi je me rappelle, j'ai appris à lire relativement tôt, à 6 ans je lisais le journal à des voisins qui étaient espagnols ou portugais, qui parlaient pas français, et on lisait naturellement. Et il n'y avait pas, t'as vu l'autre, il sait pas parler un mot de français, alors qu'aujourd'hui on a... L'image qu'on va donner de cette mixité, c'est de dire elle est péjorative. Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors que cette mixité, ce qu'on doit en garder, je pense, de cette émission, c'est qu'elle est positive. Elle va dans le sens de la ville. Elle va dans un sens, et ça, c'est pour le coup, tous les deux, vous l'avez dit, elle est basée sur un aménagement. Elle n'est pas basée sur une promotion ou sur un immeuble ou sur. C'est un aménagement, c'est une vision. Donc c'est pour ça qu'un bailleur a autant son rôle à jouer, parce qu'il va gérer des familles, qu'un politique qui lui va gérer sa politique d'urbanisme, que les entreprises ou les commerçants qui vont accepter d'aller s'installer dans ces pieds d'immeuble, qui vont accepter de jouer leur rôle au quotidien d'animation, parce que vous le disiez dans votre définition. un des éléments de la mixité, c'est la fédération. C'est un élément fédérateur. Une association, un PMU, une fête de quartier.
Et puis ce que j'entends, c'est la bienveillance. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de solidarité et on voit que les Français peuvent se montrer extrêmement généreux. Particulièrement, on a soutenu, par exemple, la fondation ALEJU qui soutient aussi les réfugiés ukrainiens. Mais ça passe aussi par soutenir son voisin. L'accueillir, l'accompagner,
ça et commence
donc avoir
par
un
la...
autre regard sur cette société.
Par la, Stéphane.
Voilà. C'est ce que j'ai compris depuis le...
Et c'est ce que disait Magali quand elle parlait du cercle, du fait que quand on va, la première personne qu'on va aider le soir, c'est la petite vieille du quatrième parce qu'elle a ses courses. Et on va pas tout de suite forcément penser à aller sauver le monde en Asie ou en Afrique. On a déjà du boulot à faire chez nous.
Magali Chelpi, un dernier mot sur le sujet ?
Oui, ben juste pour peut-être dire que la mixité sociale serait peut-être mieux appréhendée si on remettait l'usager au centre, en fait, et pas les bailleurs ou pas les politiques publiques, etc. Actuellement,
on parle beaucoup pour eux, c'est ça que vous
absolument.
Voulez.
Et c'est les dispositifs existants sont illisibles. Voilà. Donc je pense que ça revient peut-être à un changement un peu de. Voilà, de se mettre à la place du demandeur ou de
simplifier.
Absolument, absolument.
Écoutez.
Absolument.
Merci à tous les trois, merci à nos invités, merci de nous avoir suivis. Et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Et je vous remercie également. C'était ma première pour Radio Immo. À bientôt.
Et si tout le monde était bien logé, une émission en partenariat avec Alila à réécouter et télécharger sur Radio Immo, Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.